Bible, l'ouvrir, ou vos téléphones, ou vos tablettes, ou ce que vous avez, il faut qu'il y ait le public. Hein. Et nous allons lire dans Matthieu, donc nous sommes dans l'évangile de Matthieu, hein. Nous sommes dans les chapitres 5 à 7, qui sont, qu'on appelle communément, le sermon sur la montagne. Et nous sommes arrivés au verset, nous avons commencé la semaine dernière, vu la semaine dernière, en tout cas les versets 28, donc Matthieu chapitre 5. Nous avons vu donc les versets 27, pardon, jusqu'au verset 32, nous avions lu au moins, nous allons relire encore ce texte, Matthieu chapitre 5, versets 27 à 32. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil, doit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Nous allons prier. Seigneur, nous approchons de ta parole et nous sommes conscients de notre faiblesse, de nos incapacités, et nous te prions que tu puisses nous conduire par ton Saint-Esprit, que tu puisses illuminer nos cœurs, nos pensées, notre intelligence, afin que nous comprenions ta parole. Tu dis que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et nous te prions que tu nous accordes ta sagesse, le discernement, afin que nous saisissions ta parole. Nous te demandons ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Donc je vous rappelle, enfin on se rappelle que Jésus est en train de parler avec ses disciples et qu'il leur explique ce qu'est la justice élevée du royaume. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Donc il donne quelques éléments ici d'illustration de domaines dans lesquels au moins la justice du royaume est bien au-dessus de cette justice qu'ils ont peut-être toujours admirée chez les pharisiens et les scribes, une justice qui était déjà très élevée humainement parlant. Et donc Jésus a montré, la semaine dernière on a vu comment le commandement de l'adultère devait être compris, tu ne commettras point d'adultère, et comment l'adultère commence déjà dans le cœur, hein, et que ça n'était pas qu'une affaire d'acte, hein. Et donc l'adultère prend déjà sa source, sa naissance dans les convoitises du cœur. Et puis là, au verset 31, il va un peu plus loin et va toucher au domaine du mariage. Quand on parle d'adultère, on pense toujours au mariage. Donc il va montrer comment cette fois-ci, ça n'est pas, enfin, là il n'est pas question que ça se passe seulement dans le cœur, mais là il prend des situations où ça se passe réellement. Et montrer comment les pharisiens n'observaient pas donc convenablement ce commandement, tu ne commettras point d'adultère. Le divorce, ce dont Jésus parle ici, est un drame humain, familial, matériel, même si on ne s'en rend pas compte à l'instant. C'est quelqu'un qui a dit ça, c'est une jeune femme de 37 ans, dans un quotidien, et elle a deux enfants. Et elle explique comment, après avoir divorcé, comment c'est une situation qui est extrêmement compliquée. C'est un drame humain, dit-elle. Et c'est vrai que notre société, aujourd'hui, banalise le divorce. On en a même fait un fonds de commerce, il y a des films dont le thème principal est sur cela. Et je crois savoir que pas mal de feuilletons, souvent, que les gens regardent, ont ces relations extra-conjugales, de divorce, de remariage, comme toile de fond. Et certains, peut-être, vivent au rythme des mariages, remariages successifs des acteurs de cinéma et puis des autres personnages politico-médiatiques. Hein. On assiste même parfois à des personnages, au divorce sur le petit écran de chefs d'État. Donc, on baigne dans une société qui est extrêmement permissive. Et notre avis, souvent, sur le divorce et le remariage est dicté bien plus souvent par la pensée ambiante de la culture que par la vérité biblique. Et c'est pour nous une difficulté, pour moi le premier, quand on s'approche et qu'on parle de divorce et de remariage, de mariage, divorce, remariage, on a tendance à prendre cela, on est tellement touché par des situations, on connaît toujours quelqu'un dans nos familles, peut-être nous-mêmes qui avons vécu de ces choses, qu'on a du mal à ne pas aborder ces choses du point de vue de notre situation. C'est toujours un peu l'angle d'approche que l'on adopte dans ces situations, mais on a besoin de les aborder néanmoins sous l'angle de la parole de Dieu. Pas depuis notre vécu, mais sous l'angle de la réalité, la parole de Dieu. Il y a un auteur qui a fait remarquer que le taux de divorce chez les chrétiens est le même que chez les non-chrétiens. Et donc, il dit que cela indique que les principes bibliques sont insignifiants dans les prises de décision concernant le divorce. Et si le taux est le même, c'est que pour des gens qui connaissent la Bible et des gens qui ne connaissent pas la Bible, ça veut dire que les principes bibliques ne comptent pas pour beaucoup dans les prises de décision. C'est une lecture qu'il faut avoir. Donc, quelle est notre pensée concernant le mariage, le divorce, le remariage? Est-ce que ces pensées sont conformes aux Écritures ou est-ce que nous nous contentons de penser et de croire comme notre culture croit et pense? Et donc, nous devons pas oublier ce que nous avons déjà vu dans les textes précédents, notamment les versets 13 jusqu'au verset 16, où la Bible, le Seigneur Jésus dit à ses disciples que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Hein. Donc, ça veut dire que on avait été enseigné là-dessus. Hein. Nous avons un témoignage à donner qui est différent de ce que la culture véhicule. Et afin de bien saisir l'enseignement de Jésus sur ce thème particulier du divorce et du remariage, il faut que nous lisions d'autres passages où Jésus en parle. Parce que juste ici, ça n'est pas peut-être suffisant de tout cerner. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu, quelques chapitres plus loin, Matthieu chapitre 19. Et nous allons voir, parce que nous, notre manière d'aborder la chose, c'est est-ce que je peux, par exemple, divorcer? Est-ce que le chrétien, il a le droit de divorcer? Ou est-ce que, si on est divorcé, le chrétien a le droit de se remarier? Qui est la question qui vient immédiatement après celle du divorce. Et on veut voir Jésus, il est dans cette situation où la question lui est posée, justement. Donc la question est posée à Jésus en Matthieu chapitre 19. Et à partir du verset 3, nous lisons ceci. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Verset 4, Matthieu 19, verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair? Ainsi donc, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur dit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. » Et puis, Marc chapitre 10, c'est la même chose, dites pas, légèrement différemment, mais on va quand même... Marc chapitre 10, voilà. À partir du verset 1, Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de Judée. Au-delà du Jourdain, la foule s'assembla de nouveau auprès de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à enseigner. Les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver, et lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur dit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare point ce que Dieu a joint. » Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse une autre, elle commet un adultère. » Et puis la scène se termine là. Il y a encore un juste verset dans Luc chapitre 16. On ne va pas le lire là maintenant. Mais c'est intéressant de voir comment Jésus aborde ici la question. Le contexte. C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est celui qu'on a eu donc, de Matthieu 5, verset 31. Et donné, donc on retourne dans Matthieu 5. Hein. Matthieu 5, verset 31. Il dit, « Il a été dit, dit Jésus, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. » Et donc, il y avait une pratique abusive, on pourrait dire ici, du divorce, concernant une réglementation que Moïse a donnée dans l'Ancien Testament. Et les pharisiens, les scribes et les pharisiens abusaient de cette petite réglementation. Donc si, je vais vous lire, ne cherchez pas, quand Jésus dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, il semble dire ce que pensent globalement les pharisiens d'une réglementation de divorce, la seule qu'on trouve dans l'Ancien Testament concernant la réglementation sur le divorce, donc Deutéronome chapitre 24, vous pouvez le noter, mais je vais vous lire les quatre versets. Il dit, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui et s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre. Si ce dernier homme, la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle ait été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché, le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Merci. Donc, il y avait à l'époque de Jésus deux écoles rabbiniques. Hein, une école d'un homme qu'on appelait Shammai et un autre qu'on appelait Hillel. Et la question du divorce était séparée en deux. Il y avait une école qui était extrêmement, on va dire, stricte sur la question du divorce. On ne pouvait divorcer que dans le cas d'une inconduite sexuelle d'un partenaire, en général de la femme, puisque c'était surtout les hommes qui initiaient le divorce. Et l'autre école était beaucoup plus libérale. Elle disait qu'on pouvait divorcer pour n'importe quelle situation. Et ce sur quoi ils basaient leur décision était de ce qu'on vient de lire dans le Deutéronome, chapitre 24, verset 1 à 4. Il dit, lorsqu'un homme aura pris une femme et qu'il viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il aura découvert quelque chose de honteux. C'est l'interprétation de ce fameux quelque chose de honteux. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est l'inconduite sexuelle? Est-ce que c'est qu'elle a commis l'adultère? Est-ce que c'est, alors, on pense que ce n'était pas l'adultère, parce que l'adultère était puni par la mort à cette époque. Mais beaucoup de choses ont été dites à propos de cela. Et donc, chacun avait pris position là-dessus. C'est-à-dire, ceux qui disent que c'est seulement en cas d'inconduite sexuelle, ça veut dire seulement l'inconduite sexuelle. Et puis d'autres qui disent, mais non, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et les pharisiens ont commencé bien sûr, dans ces deux écoles, à dire que, voilà, non, certains disaient non, il faut rester strict sur ce que ça pourrait vouloir dire, parce que c'est pas très clair ce que ça veut dire ici. Et puis, l'autre école disait, on peut divorcer pour beaucoup plus de choses. Et là, parmi les choses, tout était possible. Hein. On pouvait divorcer parce que la femme avait mis trop de sel dans la nourriture. On pouvait divorcer parce qu'on ne la trouvait plus belle, elle était trop vieille, etc. Donc il y avait toutes sortes de raisons qu'on pouvait mettre là-dedans. Et bien sûr, la majorité avait choisi une interprétation, et vous pensez bien laquelle. Étant des hommes, étant des êtres humains, nous savons, ils ont choisi de faire pencher la balance du côté de Hillel, qui était le plus libéral. Et donc, quand les Juifs, les pharisiens viennent poser à Jésus la question, c'est avec ce sous-entendu. Est-il, dans Matthieu 19, on a lu, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? D'accord? Donc, il oblige ici à prendre position là-dessus. Mais ce que nous pouvons voir ici, c'est que Jésus pose quelques questions à ces pharisiens pour aller les amener à réfléchir à certaines vérités. Alors, il leur demande, dans Marc, on a lu, qu'a dit Moïse? Et vous avez appelé de leur réponse. Ils disent, Moïse nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de la répudier. Et pour eux, c'était un commandement que Moïse avait donné. Tu veux divorcer ta femme, tu lui fais une lettre, tu la divorces. D'accord? Il faut surtout faire une lettre. Si tu fais une lettre, il n'y a pas de problème. Donc, eux, ils avaient pris ça comme un commandement pour même une loi qui leur permettait de répudier sa femme. Ils avaient un divorce qui était aussi simple qu'une lettre. On dit souvent, ça passe comme une lettre à la poste, en français. Eh bien là, ils avaient un divorce qui était facile à la lettre. Et donc, ils veulent que Jésus se prononce là-dessus. Mais je voudrais faire remarquer premièrement que ce que Jésus fait, et ce doit être un exemple pour nous, c'est qu'il ne parle pas de divorce tout de suite. Il commence par faire quoi? Il parle de mariage et de l'institution du mariage. Dans les deux textes que nous avons lus où la question lui a été posée, donc dans le texte de Matthieu 5, là il parle du commandement « Tu ne commettras point d'adultère » de ce qui se dit habituellement et puis de ce qu'il dit par rapport à l'adultère et au divorce. Mais dans les deux autres textes que nous avons lus, là Jésus est questionné là-dessus et là on a la manière avec laquelle il considère les choses. Et donc la première chose que Jésus fait, c'est qu'il établit les vérités essentielles concernant le mariage. Et c'est ça qui est la chose la plus importante. Et on va rapidement voir un petit peu ce qu'il dit là-dessus sans passer beaucoup de temps. Dans Matthieu chapitre 19 et Marc 10, il montre d'abord que le mariage est une institution divine. Vous, n'avez-vous pas lu que le Créateur, on a parlé du Créateur tout à l'heure, et qui soutient toute chose, et bien là encore, il renvoie les pharisiens au Créateur. Au commencement fit l'homme et la femme. Voilà, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Et Jésus parle du Créateur alors qu'il est lui-même, hein, celui qui a créé toutes ces choses. Hein. Il dit, Dieu a créé un homme, une femme, pas deux hommes, pas deux femmes. Un homme, une femme. Ça nous donne déjà une direction pour certains penchants de notre société aujourd'hui. Il dit, au commencement de la création, Dieu marque, fit l'homme et la femme. Et ensuite, il montre que Dieu a institué le mariage. Donc une juste pensée de la question du divorce doit prendre toujours sa source dans le dessein de Dieu originel pour le mariage. Jésus ne parle pas de divorce, il parle de mariage. Dieu a institué le mariage. Il montre que le mariage est une union exclusive et permanente. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et donc Jésus cite la Genèse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, et Jésus conclut, là, ça c'est sa conclusion à lui, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et donc Jésus parle d'une union exclusive entre cet homme et cette femme, et qui deviennent une seule chair. Okay? Donc c'est une relation exclusive qui ça veut dire que ça exclut toute autre personne. Et notez que Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'a pas mis plusieurs hommes, plusieurs femmes, puis il leur a pas dit, faites ce que vous voulez, choisissez avec qui vous voulez aller, vous êtes libre. Non, il crée un homme, une femme, il les met ensemble et il institue ainsi sa pensée fondamentale pour le mariage. Et après, Jésus dit, il termine en disant, que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, c'est Dieu qui crée l'homme, c'est Dieu qui crée la femme, c'est lui qui les met ensemble. La Genèse dit qu'il leur dit, multipliez-vous, etc. Il dit que les deux deviendront une seule chair. Il dit, ainsi, dit Jésus, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Et puis, il ajoute, que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il dit en plus que c'est Dieu qui a joint. Donc la conclusion de Jésus est très très forte, hein. Il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le mariage établit donc un lien permanent que l'on doit garder avec fidélité. Et on se trompe quand on pense que le mariage c'est seulement deux personnes qui unissent leur vie. Jésus dit que c'est Dieu qui unit. Bien sûr, il y a monsieur le maire, la mairie, qui officie. Il y a, peut avoir le pasteur à la cérémonie religieuse, hein, qui officie aussi. Il y a les familles, on signe des papiers, etc. Mais c'est Dieu qui réalise le mariage et qui scelle l'union. Quel que soit le mariage. Que ce soit un mariage de chrétiens ou un mariage de non-chrétiens. Je dis, c'est Dieu qui a institué et qui unit. Donc les gens deviennent une seule chair. D'accord? Et Dieu est l'auteur de cette union, quel que soit le pays où ça a été célébré, que l'on soit, quelle que soit la religion dans laquelle ça a été célébré, c'est Dieu qui unit ici, dit Jésus. Et il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc le principe puissant ici que l'Écriture met devant nous, que Jésus met devant nous, c'est cette permanence du lien du mariage. Et l'homme n'a aucune légitimité, ce qu'il semble dire ici, pour séparer ou disjoindre ce que Dieu a uni. Dans la Bible, nous trouvons que une vérité profonde, c'est que le lien établi par Dieu ne peut être brisé que par la mort. C'est ça que la Bible enseigne fondamentalement. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, l'apôtre Paul dit « Une femme est liée aussi longtemps à son mari que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » On parle à des chrétiens. Et puis, lorsqu'il parle de la liberté à l'égard de la loi pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dans Romains chapitre 7, il dit « Ainsi, une femme mariée est liée à la loi et à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc on voit par deux endroits, hein, même pour faire cette analogie avec la foi et la loi, l'apôtre Paul utilise vraiment cette vérité fondamentale que dans la pensée de Dieu, c'est la mort qui peut briser le lien. Et puis, Jésus ne le dit pas ici, mais dans l'évangile, on trouve que le mariage, c'est l'illustration, je vais dire, de l'évangile, de la relation entre Christ et l'Église. Si on nous demande quel est le but fondamental du mariage, peut-être nous dirons, ben, c'est de rendre les hommes heureux, c'est de procréer, c'est de maintenir la race humaine. Ces choses sont vraies dans un certain sens, mais le but profond du mariage, quand on lit la parole de Dieu, on voit qu'il est de figurer la nature de la relation que Christ entretient avec son Église. Et c'est une pensée que l'on oublie souvent, hein, et qu'il faut maintenir. Quand on se marie, le mariage, lequel je suis, doit figurer la nature de la relation permanente que Christ entretient avec l'Église. Et Jésus est allié à son Église, il ne divorcera jamais d'elle. Et dans le cadre du mariage, il y a cette nature qui doit être montrée à la face du monde. L'apôtre Paul le dit, on ne va pas prendre le temps de lire ces passages, mais dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 32, il parle de Christ qui a aimé l'Église, il dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et que la femme doit être soumise à son mari, de même que l'Église est soumise à Christ. Et il dit que Christ purifie l'Église par l'eau de la parole, qu'il la sanctifie, qu'il s'est sacrifié lui-même pour elle. Et il donne là quels sont les éléments de la relation qui doivent exister aussi dans le couple chrétien. Cet amour sacrificiel, cette purification par l'eau de la parole, c'est-à-dire que l'Évangile, la parole de Dieu, doit avoir une place centrale dans le couple. Et toutes ces choses, quand elles sont conduites comme Dieu le veut, bien ça aide à la solidité, bien sûr, du couple et à la permanence, bien sûr, du couple. Donc la permanence de l'alliance de Christ avec son Église doit être reflétée dans le mariage chrétien. Ça, c'est donc ce que Jésus, je pense, en passant très vite, dit sur le mariage. Donc ce que je voudrais souligner ici, c'est que Jésus nous montre comment on doit aborder souvent les choses. Jamais du point de vue du problème ou de la question qui est posée. Et c'est ce que, êtres humains, nous avons tendance à faire. Répondre, Jésus n'a pas dit, ah ben je vais réfléchir à quel cas, oui, dans ce cas-là vous pouvez divorcer, non, dans ce cas-là vous ne pouvez pas divorcer. Il pose la question dans le cadre général de la volonté permanente de Dieu, du dessein originel de Dieu, qui est le mariage. Dieu n'a jamais institué le divorce, Dieu a institué le mariage. Donc il part du mariage. Et puis après, il arrive donc au divorce. Donc deuxièmement, je voudrais montrer que Jésus montre ici, après avoir montré donc les vérités essentielles sur le mariage, il montre le mal qui est attaché au divorce, hein, le mal inhérent au divorce. Le divorce tente, premièrement, je pourrais dire, de placer l'autorité de l'homme sur celle de Dieu. Parce que Jésus dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc on a deux personnes dans cette affirmation de Jésus. D'un côté l'homme et de l'autre côté Dieu. Avec deux activités. Dieu qui a uni et l'homme qui tente de séparer. Et une interdiction. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, le divorce est une tentative d'usurpation de l'autorité de Dieu, parce que l'homme décide qu'il va rompre le lien que que Dieu dit avoir établi. Donc quand Jésus dit cela, ça sous-entend, je pense, cette vérité-là. Et donc il donne un petit peu la, ça pourrait presque être la définition du divorce, ici. Les pharisiens posaient à Jésus cette question, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et on pourrait dire que la réponse de Jésus, dans Matthieu 19, est que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est comme ça que ça se termine dans Marc. Il ne dit rien, et les pharisiens viennent avec une autre question après. Mais la première question qu'ils posent, la première réponse que donne Jésus, c'est que l'homme ne sépare point ce que Dieu a fait. Un homme, je comprends cela comme cela, un homme peut-il divorcer sa femme pour n'importe quel motif? Jésus répond que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. En résumé, ça veut dire non. Et là vient la question des pharisiens. Pourquoi donc Moïse a-t-il permis de faire une lettre de divorce? Vous voyez, donc on tombe dans la réponse première de Jésus, c'est non. Et après, puisqu'on discute, eh bien, il va apporter quelques éléments complémentaires ici. Donc, l'évangile de Marc nous dit que c'est même lorsqu'ils furent dans la maison que les disciples posent à Jésus la question. Et Jésus répond à leur question en disant celui qui répudie sa femme, sauf pour cause, celui qui répudie sa femme, il n'y a pas de cause ici, qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et puis pareil pour une femme qui quitte son mari et qui en épouse un autre, elle commet aussi un adultère. Donc, le divorce est contraire à l'institution de Dieu, à la nature du mariage et à l'action de Dieu qui a réalisé ce mariage. Ensuite, Jésus montre ensuite que le divorce est une concession à la dureté du cœur de l'homme. Il dit, quand les juifs posent la question, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit, alors d'autres textes disent Moïse a-t-il commandé, mais Moïse n'a jamais commandé de divorcer. Même dans le texte que nous avons lu, on va y revenir dans Deutéronome 24. Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce et de la répudier? Ils ont donc, si je pense, compris le caractère presque définitif de la réponse de Jésus quand il a dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Parce qu'ils viennent avec, mais pourquoi donc à ce moment-là? S'il y a une telle impossibilité, pourquoi il y a eu cette ouverture là-bas? Et Jésus répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis, pas commandé, permis de répudier vos femmes. Et donc, en disant cela, les pharisiens ont fait référence au texte que nous avons lu tout à l'heure dans Deutéronome, chapitre 24, versets 1 à 4. Et ce texte de Deutéronome n'est absolument pas un texte qui commande de divorcer. Suivant la traduction que l'on a, on peut mal comprendre ce texte, mais la plupart des biblistes disent que les trois premiers versets constituent une condition, et le quatrième, c'est la conclusion. Donc je vous lis dans la version Parole de Vie, ces mêmes versets, il dit, Moïse dit, supposons ceci. Donc, on apprend comme une supposition ce qui est dit dans le Deutéronome chapitre 24. Je vous lis. Un homme se marie. Un cas de figure. Mais un jour, sa femme ne lui plaît plus parce qu'il a quelque chose à lui reprocher. Alors, il écrit une lettre de divorce, il donne ce papier à sa femme et il la renvoie chez lui. Après que cette femme l'a quitté, elle se marie avec un autre homme. Mais voici ce qui peut arriver. Son deuxième mari ne l'aime plus. Il écrit une lettre de divorce, il donne ce papier à sa femme et il la renvoie chez lui. Ou bien encore, il meurt. Et verset 4, dans ces deux cas, son premier mari ne peut pas reprendre pour femme celle qu'il avait renvoyée. En effet, elle est devenue impure pour lui. Ce serait une chose horrible pour le Seigneur. Vous ne devez pas, en faisant cela, charger d'empêcher le pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donne en partage. C'est à peu près le sens. Il dit, voilà une situation qui pourrait exister, hein, et voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, si vous voulez, le texte ne commande pas du tout de divorcer. Le texte, ici, parce que tous les premiers versets ici sont en conditionnel, le but principal de la loi ici est d'interdire le remariage après divorce. C'est le sens dans lequel va le texte. Et l'accent est mis sur la souillure que le remariage a produit chez cette femme qui a été répudiée. Donc, il est bien entendu que Moïse ne commande jamais, que la Bible ne commande jamais le divorce. Et Jésus dit, c'est la dureté de votre cœur qui a fait que Moïse a fait cette concession. Autrement dit, il y a la loi de Dieu, la loi sainte de Dieu, son dessein originel pour le mariage. Et puis, à cause du péché, de la dureté du cœur, eh bien, il y a des aménagements. Dieu concède un aménagement dans la loi, mais pas pour qu'on puisse sauter à pieds joints là-dedans et la prendre comme un commandement. C'est pour limiter le chaos qui existe dans la société. Les gens divorçaient à tout, on peut penser comme cela, on fait une lettre, on renvoie la femme. Et à cause du péché, il y avait un chaos qui s'était installé. Et Moïse vient avec une légifération. Ça existe même dans nos sociétés. Des fois, on peut avoir un chaos qui est causé par une certaine disposition. Et on vient avec une loi pour freiner un peu le mal. Et si Moïse vient avec une loi pour protéger la femme, d'accord, qui peut être ici l'objet d'un divorce injustifié, hein, illégitime, quoi. Hein. Et puis, mais pas pour dire qu'on peut divorcer. La lettre, c'est une lettre qui va protéger, empêcher que les choses ne s'empirent, mais ce n'est pas un blanc-seing pour pouvoir divorcer. Et c'est comme cela qu'il faut le saisir. Et par contre, ce n'est pas ainsi que les pharisiens l'avaient saisi. Ils l'avaient pris, bien sûr, d'après les penchants de leur cœur, ça comme un commandement pour pouvoir divorcer. Donc la lettre n'annule pas l'ordre de permanence du mariage. Elle part bien d'une situation de chaos qui existe et elle est donnée pour contenir le mal pour protéger souvent les différentes parties. Mais notez quand même ce que Dieu dit au passage, c'est que le second mariage de cette femme l'a souillée, et qu'elle ne peut pas revenir vers le premier, même si dans son second mariage, le mari est mort. Parce qu'on a lu tout à l'heure que la mort libère quelqu'un pour être marié. Et même dans ce cas ici, même si le second mari meurt, elle ne peut pas revenir vers le premier. Même si le premier ne s'est pas remarié entre temps, elle ne peut pas revenir. Et je ne peux pas expliquer pourquoi, mais il y a quelque chose du point de vue de Dieu qui se passe et qui est très important parce qu'il dit qu'elle amènerait une abomination dans tout le pays. Donc il y a dans les questions de divorce et de remariage plus que ce que nous pouvons saisir profondément. C'est pas juste une relation. Du côté de Dieu, il doit avoir des choses qui dépasse bien souvent notre entendement dans la nature des liens qui s'unissent et qui unissent des personnes dans leur premier mariage. La dureté du cœur, dit Jésus, l'endurcissement du cœur est ce qui a provoqué la concession. Hein. Et Jésus met bien en évidence ici, il y a la loi de Dieu qui a amené le mariage. Et puis, il y a la dureté du cœur, le péché, qui amène la concession. Et quand les Juifs lui disent, mais Moïse nous a ordonné de donner une lettre et de répudier notre femme, Jésus dit, Moïse vous a permis de faire cela, à cause de la dureté de votre cœur. Mais tout de suite, il rattrape et il dit, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et il veut que ce commencement reste présent dans l'esprit, quand on considère cette question, ce que Dieu a eu au commencement. Donc le divorce, ici, est une concession faite à la dureté du cœur, mais pas la volonté de Dieu. Et puis, Jésus montre ici que le divorce expose à l'adultère. Dans le texte que nous avons lu, Matthieu 5, verset 32, il dit, « Mais moi, je vous dis, oui, les Juifs avaient une facilité à répudier, voilà, celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, et puis c'est fini pour eux. C'est une affaire de lettre. » Et Jésus dit non, c'est une affaire d'adultère potentiel. Il dit, « Moi, je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. » C'est une question d'obéissance au septième commandement. Ici, tu ne commettras point d'adultère. Jésus évoque donc la question du divorce en lien étroit avec le péché d'adultère. Si on considère le contexte de Matthieu 5, 27, 22, on se rappelle qu'il avait parlé de l'adultère qui existe déjà dans le cœur, mais qui peut ne pas se produire dans le corps, mais c'est quand même un adultère et c'est condamnable. Et ici, Jésus montre comment, quand cette purification du cœur n'a pas été faite, comment cela peut conduire à l'acte physique d'adultère, ici. Et donc, le divorce, quelque part, peut provenir ici d'un cœur dans lequel il y a déjà de la convoitise pour quelqu'un d'autre. Et bien souvent, c'est vrai que je reconnais qu'il y a des difficultés terribles, qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont battus, mais dans la plupart des cas, ce sont des cas que je comprends, et on peut comprendre que des fois il y a des séparations, mais souvent, dans les plupart des cas, c'est le désir, de toute façon, c'est toujours le péché qui amène le divorce, et puis souvent c'est dans le désir du cœur d'être avec quelqu'un d'autre. C'est l'une des premières choses, soit qu'on a rencontré dans le milieu du travail ou ailleurs, c'est l'une des premières choses qui peut motiver, faire trouver que la personne avec laquelle on est n'est pas la bonne personne. En tout cas, il y a beaucoup de cela aussi, quoi qu'il faut être honnête pour le reconnaître. Jésus ici, en tout cas, il montre que le divorce expose à l'adultère, provient de l'adultère dans le cœur et expose encore à l'adultère. Et il assume aussi que la question qui se pose immédiatement après celle du divorce, c'est celle du remariage. Sans quoi il ne parlerait pas d'adultère. Quelqu'un qui a divorcé n'a pas commis d'adultère. Péché d'adultère, c'est spécifique. Quand on a divorcé, on n'a pas commis d'adultère. Et Jésus dit, celui qui répudie sa femme, d'accord, et puis, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, donc il continue, s'il ajoute et qui en épouse une autre, c'est que c'est le cheminement naturel après le divorce. Et donc, il assume que ce qui anime comme pensée ceux qui divorcent, le premier, c'est toujours le fait de se remarier. Et c'est tout à fait normal. Je veux dire, c'est pas le désir de se remarier n'est pas quelque chose de mauvais en soi, d'être avec quelqu'un, d'avoir, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. Mais Jésus souligne néanmoins que quand on est marié, qu'on divorce, attention, il y a un risque d'exposition à l'adultère. Et notez que Jésus rend le mari coupable du péché d'exposition à l'adultère. Il dit celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, sauf pour infidélité, l'expose à l'adultère. C'est-à-dire que le mari qui va initier le divorce, il est rendu par Jésus coupable d'exposer sa femme à devenir adultère. Parce que elle pourrait se remarier. Donc, il montre qu'il va l'exposer à l'adultère. Il est donc responsable de cela. On note aussi que Jésus qualifie d'adultère le remariage après divorce. Jésus qualifie d'adultère le remariage après divorce. C'est très clair dans les textes de Marc et de Luc, et ici aussi, où Jésus dit, par exemple, je lis dans Luc, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet l'adultère. Il montre que si quelqu'un, pour son premier mariage, marie quelqu'un qui est répudié, c'est un adultère. C'est-à-dire, cette femme, par exemple, qui a été répudiée, qui rencontre un homme qui n'a jamais été marié, et se marie, il dit c'est un adultère. Celui qui la marie commet un adultère. Et il dit que le mari qui a répudié est responsable de cet adultère. Ça devient compliqué, hein. Pas compliqué, mais je vais dire, mais ça, je pense que c'est lourd et ça montre qu'on ne peut pas prendre cela à la légère, ici. Hein. Donc le remariage d'un homme avec une autre femme est un adultère. Et il prend la même, dans Marc, il parle aussi du cas de la femme. Il dit que la femme qui quitte son mari et en épouse une autre commet aussi un adultère. Et donc, à travers ces versets, Jésus, je crois, qualifie d'adultère le remariage après le divorce. Que ce divorce ait été initié par un homme, par l'homme ou bien par la femme. Et dans Deutéronome 24, versets 1 et 4 que nous avons lu, il attire l'attention sur la souillure qui existe dans le remariage. Elle est souillée. Et on peut lire d'autres passages là-dessus. Par exemple, dans Lévitique 18, 20, il est dit « Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. » Donc il y a cette notion de souillure, on pourrait englober, c'est peut-être l'équivalent de l'adultère là ici, qui existe dans ces relations de remariage. En Nombre chapitre 5, si vous lisez Nombre chapitre 5, il y a tout un test qui est fait pour que le sacrificateur puisse savoir si une femme a été adultère. Bon, on n'a pas le temps de lire cela, mais plus à chaque fois ce mot est utilisé. Souillé, souillure, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre non plus ici à la légère. Donc, Jésus montre qu'il y a quelque chose qui se passe quand on se remarie il qualifie donc d'adultère le remariage après le divorce. Mais j'entends bien, peut-être vous direz, mais dans le verset 32 que nous avons lu, Jésus met quand même une exception. Il fait quand même une exception. Il dit, moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Il dit, ah, ici, Jésus montre bien que si il y a une infidélité dans le couple, le divorce est autorisé, ou bien est permis. Donc dans Matthieu 19, on trouve aussi la même chose. Je fais remarquer que dans Marc et dans Luc, on n'a pas cette clause d'exception. Marc ne dit pas sauf pour cause d'infidélité. Luc non plus. D'accord, on ne dit pas sauf pour cause d'infidélité. Et donc, ce verset qu'on appelle, cette clause, on appelle la clause d'exception, sauf pour cause d'infidélité, est devenu un champ de bataille chez les spécialistes, parce que vous comprenez bien que de l'interprétation que l'on a de cette clause ici dépend la position que l'on prend sur le divorce et le remariage. Si Jésus dit qu'on peut divorcer pour cause d'infidélité, donc je suis libre de divorcer si le conjoint a commis l'adultère, et donc si je suis libéré de cette manière-là, je suis aussi libre de me remarier. Et donc, bien sûr, les spécialistes ne sont pas tous d'accord là-dessus, et tout dépend du poids que l'on fait porter au mot infidélité ici. Le terme qui est utilisé, c'est le terme pornéa, hein, qui a donné, c'est conduite sexuelle, qui a donné pornographique, hein, que vous connaissez. Et c'est pas le même mot que Jésus utilise dans le même contexte pour dire adultère. Donc il n'a pas dit, si quelqu'un, moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour adultère, l'expose à devenir adultère. Il n'a pas dit ça. Donc, il a dit, si quelqu'un répudie sa femme sauf pour fornication, c'est le mot qui est utilisé ici, il expose à devenir adultère. Donc, beaucoup pensent que dans le mot fornication, on peut aussi inclure le mot adultère. Et donc, infidélité, ça veut dire que même dans le mariage, s'il y a eu une infidélité, Jésus autorise le divorce. Et puis, d'autres pensent que non, qu'il faut garder les deux mots séparément, hein. C'est un peu ma position là-dessus. Il faut garder un peu les deux mots séparément. Et Jésus parle ici de la fornication. Et cela, pour ceux qui soutiennent cette thèse, pourquoi est-ce que c'est seulement Matthieu qui le dit? Parce que l'évangile de Matthieu est adressé aux Juifs, d'accord? Et donc cela pourrait se comprendre comme inconduite sexuelle dans le cadre, des fiançailles, parce que les Juifs, hein, se fiançaient, c'était déjà un engagement qu'ils prenaient, et ils étaient considérés quasiment comme mariés. Ils ne vivaient pas ensemble, mais à cette époque, l'engagement était déjà pris. D'accord. Et s'il arrivait que le mari découvre que sa femme n'a pas été fidèle pendant cette période, il pouvait la renvoyer. C'est un peu la situation de Joseph et Marie. Vous vous rappelez de Joseph? La Bible dit que Joseph était un homme de bien. Il ne voulait pas la diffamer. Quand il a vu que sa fiancée était enceinte, la première chose à laquelle il pense, c'est qu'elle a été infidèle. D'accord? Et donc, il se propose de la renvoyer. Et c'est peut-être pour ça, quelques exégètes pensent que c'est peut-être pour ça que seul Matthieu rapporte ce fait aussi. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que peu importe la position, enfin pas peu importe, mais disons, même si on prend une position ou l'autre, ici, ce qui me frappe, c'est ce que disent les disciples dans Marc quand Jésus leur dit, moi je vous dis que si un homme répudie sa femme et en épouse une autre, par exemple, il commet l'adultère. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, il commet l'adultère. Plutôt c'est dans le texte de Matthieu que les disciples parlent. Le texte de Matthieu 19. Quand Jésus dit cela, les disciples lui disent, mais si telle est la condition de l'homme, il n'est pas avantageux de se marier. Ils ont compris que ce que Jésus disait là était extrêmement sévère et qu'il était en train de fermer au maximum la porte de sortie. Et donc, Jésus leur dit, tous ne comprennent pas cela, mais seulement ceux à qui cela est donné. D'accord? Et donc, il est en train de dire, c'est certes, les disciples sont en train de dire, mais c'est trop haut ce que tu as mis là, c'est vraiment trop haut. C'est un piège qui lui était posé, libéral, Hillel, ou strict comme Shammai, l'école Shammai. Et Jésus, il est au-dessus de tout ça, il est au-dessus de Shammai. C'est pour ça que les disciples réagissent, je pense, de cette manière-là. Et rappelez-vous, au chapitre 5, verset 20, il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, si sa position, c'est d'être comme Shammai, il dit, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Certainement, ils la comprennent comme au-dessus même de ce qui était déjà relativement strict. Et un auteur faisait remarquer que, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup, les femmes plutôt juives n'étaient pas portées à l'adultère. Donc, quand Jésus dit, sauf pour cause d'infidélité, même s'il parlait d'adultère, ça voudrait dire que le divorce est quasiment jamais. Hein? Et on n'aura aucune. Et les disciples disent, mais si telle est la volonté de Dieu, eh bien, il vaut mieux ne pas se marier. Et il montre par là que son exigence, ils comprennent l'exigence comme étant extrêmement élevé. Et donc, je crois qu'il faut, mon point de vue là-dessus, c'est qu'il faut pas sauter à pieds joints dans cette clause pour essayer de tirer dans tous les sens ce que je peux faire, mais garder présent à l'esprit ce que Jésus a montré pour la sainteté, la permanence du mariage, et comprendre qu'ici, il a rendu la chose extrêmement difficile, qu'il a fermé plus qu'il n'a ouvert. Et je vais vous citer ce que disait le pasteur Timothée Bixby dans un petit texte qu'il a écrit sur ce sujet. Il dit, Jésus ne relâche pas la loi sur le divorce, au contraire, il l'intensifie, accusant les époux qui divorcent d'exposer la femme à commettre l'adultère par le remariage. Il dit, c'est une accusation qui n'est pas intenté contre le mari dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne dit pas celui qui répudie sa femme, il l'expose à l'adultère. Donc Jésus ajoute quelque part un poids sur celui qui veut initier le divorce. Et ici, Jésus n'a pas relâché la loi sur le divorce et le remariage, mais a déclaré et qu'il a été donné à cause des cœurs endurcis. Et s'il a ajouté un poids, une charge sur le mari qui divorce de sa femme, eh bien, nous devrions procéder avec prudence à l'approbation de telles pratiques nous-mêmes. Je trouve que c'est intéressant de voir cela ainsi, c'est-à-dire que Jésus a quelque part alourdi la chose, hein, parce que ses disciples trouvent que c'est plus dur que ce à quoi ils avaient à l'école la plus dure à laquelle ils étaient habitués. Et donc, cette charge même que Jésus, cette responsabilité que Jésus fait peser sur celui qui initie le divorce, doit nous faire réfléchir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention, de soin, quand nous sommes tentés, peut-être, d'utiliser cette petite, 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 petite fenêtre de sortie. John MacArthur écrit « Quand on considère les effets nuisibles sur les enfants, les autres membres de la famille et la société en général, on voit que peu de pratiques sont aussi destructrices que le divorce. Il engendre non seulement davantage de péchés, mais également de la confusion, du ressentiment, de la haine, de l'amertume, du désespoir, des conflits et des épreuves de toutes sortes. Sans exception, le divorce est un produit du péché. Et Dieu le hait. Malachie chapitre 2 dit Dieu hait la répudiation. Il ne le commande jamais, il ne l'endosse jamais, il ne le bénit jamais. Et je voulais faire remarquer que le premier livre de l'Ancien Testament, la Genèse, s'ouvre avec le mariage, on pourrait dire, pratiquement. Et le dernier livre de l'Ancien Testament se ferme avec Dieu qui dit « Je hais le divorce ». Ici, d'accord ? Genèse, l'institution du mariage. Malachie, la haine du divorce. C'est ainsi qu'il nous faut garder les choses dans notre esprit. Il faut les garder ainsi. Nous ne pouvons pas faire autrement. Maintenant, quelques applications, même pour terminer. Je voudrais dire que la meilleure façon d'aborder une question, c'est toujours de la situer dans le cadre général qui constitue son contexte. On ne parle pas du divorce en parlant que du divorce. On parle du divorce en le plaçant dans le cadre de général, la grande vérité qu'est le mariage. C'est ce que Jésus a fait avec ses juifs et avec ses disciples. Et même quand les pharisiens ont tenté de ramener le débat encore, mais pourquoi Moïse a-t-il donc dit de ramener le débat au divorce? Il est revenu, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, il garde le cadre général. Ensuite, l'Écriture constitue le fondement de toute approche et de toute solution pour une question particulière qui touche à notre quotidien. Ce ne sont pas les valeurs en vogue dans la société qui doivent fixer le cap, chers frères et sœurs, pour nous, mais la révélation de Dieu. Une question telle que le divorce et le mariage et le remariage ne doit pas être abordée autrement que par la lumière des Saintes Écritures. Jésus a dit aux pharisiens qui le questionnaient, « N'avez-vous pas, quoi, lu au commencement ?» Il les a ramenés à ce qui est écrit à propos de la loi de Dieu. C'est ainsi que nous devons toujours faire, nous attacher à la parole de Dieu pour déterminer ce que nous devons faire et jamais ce qui se fait en moyenne dans notre société. Et ma situation personnelle non plus ne doit pas constituer la norme. Et les pharisiens avaient adopté une position, ils voulaient amener Jésus à prendre une décision par rapport à leur position. Ce n'est pas ainsi que le Seigneur agit, il agit en les ramenant, bien sûr, à la vérité de l'Écriture. Donc, la réalité sur la nature de ma situation doit être toujours comprise à la lumière des Saintes Écritures, et elle seule constitue un sûr et juste fondement pour nous. Troisièmement, je dis qu'il faut cultiver aussi la pensée de Dieu sur le mariage. Cultiver la pensée de Dieu sur le mariage. Cultiver la pensée de Dieu sur le mariage. Jésus, il faut pas cultiver nos pensées avec ce que le monde véhicule. Il faut la cultiver avec la parole de Dieu, les vérités fondamentales de la parole de Dieu. C'est elles qui vont nous garder. Et c'est quand on est bien, quand on est jeune, quand on n'est pas encore marié, qu'il faut, nourrir nos cœurs avec ces vérités. Je lisais une histoire dans un livre sur le mariage et où c'était un film, bon, c'était une histoire écrite, mais l'auteur disait qu'il parlait de d'une jeune femme qui était quelque part dans un foyer où il y avait un homme d'âge mûr, mais qui avait une femme handicapée, qui pouvait plus rien, pouvait plus avoir de relations avec sa femme, était vraiment malade, quoi. Hein. Et je crois qu'ils étaient même sur le point de divorcer et tout cela. Et cette jeune femme subissait des avances de cet homme. Et l'homme était extrêmement gentil, hein. C'était pas un gars, c'était un gars très très bien, très gentil. Et des gens lui conseillaient, mais tu sais, bon, il va divorcer, quoi. Ouais, bon, si tu peux te marier avec lui, il a besoin d'aide.